Chapitre 4. L'entrée triomphale. Tomsk, fondée en 1604, presque au cœur des provinces sibériennes, est l'une des plus importantes villes de la Russie asiatique. Tobolsk, située au-dessus du 60e parallèle, Irkoutsk bâti au-delà du 100e méridien, ont vu Tomsk s'accroître à leurs dépens. Et cependant, Tomsk, on l'a dit, n'est pas la capitale de cette importante province. C'est à Omsk que réside le gouverneur général de la province et le monde officiel. Mais Tomsk est la plus considérable ville de ce territoire qui confine au mont Altaï, c'est-à-dire à la frontière chinoise du pays des Khalkhas. Sur les pentes de ces montagnes roulent incessamment jusque dans la vallée du Tom le platine, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb aurifère. Le pays étant riche, la ville l'est aussi, car elle est au centre d'exploitations fructueuses. Aussi, le luxe de ses maisons, de ses ameublements, de ses équipages peut-il rivaliser avec celui des grandes capitales de l'Europe? C'est une cité de millionnaires, enrichie par le pic et la pioche, et si elle n'a pas l'honneur de servir de résidence aux représentants du tsar, elle s'en console en comptant au premier rang de ses notables le chef des marchands de la ville, principal concessionnaire des mines du gouvernement impérial. Autrefois, Tomsk passait pour être situé à l'extrémité du monde. Voulait-on s'y rendre? C'était tout un voyage à faire. Maintenant, ce n'est plus qu'une simple promenade lorsque la route n'est pas foulée par le pied des envahisseurs. Bientôt même sera construit le chemin de fer qui doit la relier à Perm en traversant la chaîne de l'Oural. Tomsk est-elle une jolie ville? Il faut convenir que les voyageurs ne sont pas d'accord à cet égard. Madame de Bourboulon, qui y a demeuré quelques jours pendant son voyage de Shanghai à Moscou, en fait une localité peu pittoresque. À s'en rapporter à sa description, ce n'est qu'une ville insignifiante, avec de vieilles maisons de pierre et de briques, des rues fort étroites et bien différentes de celles qui percent tortillèrement les grandes cités sibériennes. Des sales quartiers, où s'entassent plus particulièrement les Tartares, et dans laquelle pullulent de tranquilles ivrognes, dont l'ivresse elle-même est apathique, comme chez tous les peuples du Nord. Le voyageur Henri Russell Kilou, lui, est absolument affirmatif dans son admiration pour Tomsk. Cela tient-il à ce qu'il a vu en plein hiver, sous son manteau de neige, cette ville que Madame de Bourboulon n'a visitée que pendant l'été? Cela est possible, et confirmerait cette opinion que certains pays froids ne peuvent être appréciés que dans la saison froide, comme certains pays chauds dans la saison chaude. Quoi qu'il en soit, M. Russell Kilou dit positivement que Tomsk est non seulement la plus jolie ville de la Sibérie, mais encore une des plus jolies villes du monde, avec ses maisons à colonnades et à péristyles, ses trottoirs en bois, ses rues larges et régulières, et ses 15 magnifiques églises que reflètent les eaux du Tom, plus larges qu'aucune rivière de France. La vérité est entre les deux opinions. Tomsk, qui compte 25 000 habitants, est pittoresquement étagé sur une longue colline dont l'escarpement est assez raide. Mais la plus jolie ville du monde en devient la plus laide lorsque les envahisseurs l'occupent. Qui eût voulu l'admirer à cette époque? Défendue par quelques bataillons de cosaques à pied qui y résident en permanence, elle n'avait pu résister à l'attaque des colonnes de l'émir. Une certaine partie de sa population, qui est d'origine tartare, n'avait point fait mauvais œil à ses hordes, tartares comme elle, et pour le moment Tomsk ne semblait guère être ni plus russe ni plus sibérienne que si elle eût été transportée au centre des khanats de Kokland ou de Boukhara. C'était à Tomsk que l'émir allait recevoir ses troupes victorieuses. Une fête avec chants, danses et fantasias, et suivie de quelques bruyantes orgies, devait être donné en leur honneur. Le théâtre choisi pour cette cérémonie, réglée suivant le goût asiatique, était un vaste plateau situé sur une portion de la colline qui domine d'une centaine de pieds le cours du Tom. Tout cet horizon, avec sa longue perspective de maisons élégantes et d'églises aux coupoles ventrues, les nombreux méandres du fleuve, les arrière-plans de forêts noyées dans la brume chaude, tenait dans un admirable cadre de verdure que lui faisaient quelques superbes groupes de pins et de cèdres gigantesques. À la gauche du plateau, une sorte d'éblouissant décor représentant un palais d'une architecture bizarre. Quelques spécimens sans doute de ces monuments boukhariens, semi-mauresques, semi-tartares, avaient été provisoirement élevés sur de larges terrasses. Au-dessus de ce palais, à la pointe des minarets qui le hérissaient de toutes parts, entre les hautes branches des arbres dont le plateau était ombragé, des cigognes apprivoisées, venues de Boukhara avec l'armée tartare, tourbillonnaient par centaines. Ces terrasses avaient été réservées à la cour de l'émir, aux khans ses alliés, aux grands dignitaires des khanats et au harem de chacun de ses souverains du Turkestan. De ces sultanes, qui ne sont pour la plupart que des esclaves achetés sur les marchés de la Transcosie et de la Perse, les unes avaient le visage découvert, les autres portaient un voile qui les dérobait du regard. Tout était vêtu avec un luxe extrême. D'élégantes pelisses, dont les manches relevées en arrière se rattachaient à la façon du pouf européen, laissaient voir leurs bras nus chargés de bracelets réunis par des chaînes de pierres précieuses et leurs petites mains dont les doigts étaient teints aux ongles du suc de henné. Au moindre mouvement de ces pelisses, les unes en étoffe de soie comparable pour la finesse à l'étoile d'araignée, les autres faites d'un soupe aladja qui est un tissu de coton à rayures étroites, il se produisait ce froufrou si agréable aux oreilles des orientaux. Sous ce premier vêtement chatoyaient des jupes de brocart, recouvrant le pantalon de soie qui se rattachait un peu au-dessus de fines bottes gracieusement échancrées et brodées de perles. De celles de ces femmes qu'aucun voile ne cachait, on eût admiré les longues nattes s'échappant de turbans aux couleurs variées, les yeux admirables, les dents magnifiques, le teint éblouissant relevé encore par la noirceur de leurs sourcils que reliait un léger trait tracé au collyre et par l'estompe de leurs paupières touchée d'un peu de plombagine. Au pied des terrasses, abritées sous les étendards et les oriflammes, veillaient les gardes particuliers de l'émir, double sabre recourbé au flanc, poignard à la ceinture, lance longue de 10 pieds au poing. Quelques-uns de ces tartares portaient des bâtons blancs, d'autres d'énormes hallebardes ornées de houppes faites de fils d'argent et d'or. Tout autour, jusque aux arrière-plans de ce vaste plateau, sur les talus escarpés dont le tome baignait la base, se massait une foule cosmopolite composée de tous les éléments indigènes de l'Asie centrale. Les Ouzbeks étaient là, avec leurs grands bonnets de peau de brebis noire, leurs barbes rouges, leurs yeux gris, leur arkalouk, sorte de tunique taillée à la mode tartare. Là se précédaient Turcomanes, revêtus du costume national, large pantalon de couleur voyante, avec veste et manteau tissus de poils de chameau, bonnets rouges coniques ou évasés, hautes bottes en cuir de Russie, le briquet et le couteau suspendus à la taille par une lanière. Là, près de leur maître, se montraient ces femmes turcomanes, aux cheveux allongés par des ganses en poils de chèvre, la chemise ouverte sous le djouba rayé de bleu, de pourpre, de vert, les jambes lacées de bandelettes coloriées qui se croisaient jusqu'à leur socle de cuir. Là aussi, comme si toutes les populations de la frontière russo-chinoise se fussent levées à la voix de l'émir, on voyait des mandchous, rasés au front et aux tempes, cheveux nattés, robes longues, ceinture serrant la taille sur une chemise de soie, bonnets ovales de satin cerise à bordure noire et franges rouges, puis avec eux, d'admirables types de ces femmes de la Mandchourie, coquettement coiffées de fleurs artificielles que maintenaient des épingles d'or et des papillons délicatement posés sur leurs cheveux noirs. Enfin des Mongols, des Boukhariens, des Persans, des Chinois du Turkestan complétaient cette foule conviée à la fête tartare. Seuls, les Sibériens manquaient à cette réception des envahisseurs. Ceux qui n'avaient pu fuir étaient confinés dans leur maison, avec la crainte du pillage que Féofar Khan allait peut-être ordonner pour terminer dignement cette cérémonie triomphale. Ce fut à 4 heures seulement que l'émir fit son entrée sur la place au bruit des fanfares, des coups de tam-tam, des décharges d'artillerie et de mousqueterie. Féofar montait son cheval favori, qui portait sur la tête une aigrette de diamants. L'émir avait conservé son costume de guerre. À ses côtés marchaient les khans de Kokand et de Kudnouz, les grands dignitaires des khanats, et il était accompagné d'un nombreux état-major. À ce moment apparut sur la terrasse la première des femmes de Féophare, la reine, si cette qualification pouvait être donnée aux sultanes des états de Boukhari. Mais, reine ou esclave, cette femme d'origine persane était admirablement belle. Contrairement à la coutume mahométane et par un caprice de l'émir, sans doute, elle avait le visage découvert. Sa chevelure, divisée en quatre nattes, caressait ses épaules éblouissantes de blancheur, à peine couvertes d'un voile de soie lamé d'or qui se rajustait en arrière à un bonnet constellé de gemmes du plus haut prix. Sous sa jupe de soie bleue à larges rayures plus foncées, tombait le zirjamé en gaze de soie, et au-dessus de sa ceinture se chiffonnait le piran, chemise de même tissu, qui s'échancrait gracieusement en remontant vers son cou. Mais depuis sa tête jusqu'à ses pieds, chaussée de pantoufles persanes, telle était la profusion de bijoux, tomans d'or enfilés de fils d'argent, chapelets de turquoise, firouzés tirés des célèbres mines d'Elbrouz, colliers de cornaline, d'agate, d'émeraude, d'opale et de saphir, que son corsage et sa jupe semblaient être tissus de pierres précieuses. Quant aux milliers de diamants qui étincelaient à son cou, à ses bras, à ses mains, à sa ceinture, à ses pieds, des millions de roubles n'en eussent pas payé la valeur, et à l'intensité des feux qu'il jetait, on eût pu croire qu'au centre de chacun d'eux, quelque courant allumait un arc voltaïque fait d'un rayon de soleil. L'émir et les khans mirent pied à terre, ainsi que les dignitaires qui leur faisaient cortège. Tous prirent place sous une tente magnifique, élevée au centre de la première terrasse. Devant la tente, comme toujours, le Coran était déposé sur la table sacrée. Le lieutenant de Féophare ne se fit pas attendre, et avant 5 heures, d'éclatantes fanfares annoncèrent son arrivée. Ivan Ogareff, le balafré comme on le nommait déjà, portant cette fois l'uniforme d'officier tartare, arriva à cheval devant la tente de l'émir. Il était accompagné d'une partie des soldats du camp de Zabediero, qui se rangèrent sur les côtés de la place, au milieu de laquelle il ne resta plus que l'espace réservé au divertissement. On voyait un large stigmate qui coupait obliquement la figure du traître. Ivan Ogareff présenta à l'émir ses principaux officiers, et Féophare Khan, sans se départir de la froideur qui faisait le fond de sa dignité, les accueillit de façon qu'ils fussent satisfaits de son accueil. Ce fut ainsi du moins que l'interprétèrent Harry Blount et Alcide Jolivet, les deux inséparables, associés maintenant pour la chasse aux nouvelles. Après avoir quitté Zabediero, ils avaient rapidement gagné Tomsk. Leur projet bien arrêté était de fausser compagnie aux Tartares, de rejoindre au plus tôt quelques corps russes, et si cela était possible, de se jeter avec lui dans Irkoutsk. Ce qu'ils avaient vu de l'invasion, de ces incendies, de ces pillages, de ces meurtres, les avait profondément écœurés, et ils avaient hâte d'être dans les rangs de l'armée sibérienne. Cependant, Alcide Jolivet avait fait comprendre à son confrère qu'il ne pouvait quitter Tomsk sans avoir pris quelques crayons de cette entrée triomphale des troupes tartares, ne fût-ce que pour satisfaire la curiosité de la cousine. Et Harry Blount s'était décidé à rester pendant quelques heures. Mais le soir même, tous deux devaient reprendre la route d'Irkoutsk, et bien montés, ils espéraient devancer les éclaireurs de l'émir. Alcide Jolivet et Harry Blount s'étaient donc mêlés à la foule et regardaient, de manière à ne perdre aucun détail d'une fête qui devait leur fournir 100 bonnes lignes de chronique. Ils admirèrent donc Féophare Khan dans sa magnificence, ses femmes, ses officiers, ses gardes et toute cette pompe orientale dont les cérémonies d'Europe ne peuvent donner aucune idée. Mais ils se détournèrent avec mépris lorsqu'Ivan Ogareff se présenta devant l'émir et ils attendirent non sans quelque impatience que la fête commença. « Voyez-vous, mon cher Blount, dit Alcide Jolivet, nous sommes venus trop tôt comme de bons bourgeois qui en veulent pour leur argent. Tout cela, ce n'est qu'un lever de rideau. Il eût été de meilleur goût de n'arriver que pour le balai. »«
Quel balai ? » demanda Harry Blount.
« Le balai obligatoire, parbleu. Je crois que la toile va se lever. » Alcide Jolivet parlait comme s'il eût été à l'opéra, et tirant sa lorgnette de son étui, il se prépara à observer en connaisseur les premiers sujets de la troupe de Féophare. Mais une pénible cérémonie
allait précéder les divertissements. En effet, le triomphe du vainqueur ne pouvait être complet sans l'humiliation publique des vaincus. C'est pourquoi plusieurs centaines de prisonniers furent amenés sous le fouet des soldats. Ils étaient destinés à défiler devant Féofarkhan et ses alliés, avant d'être entassés avec leurs compagnons dans les prisons de la ville. Parmi ces prisonniers figurait au premier rang Michel Strogoff. Conformément aux ordres d'Ivan Ogareff, il était spécialement gardé par un peloton de soldats. Sa mère et Nadia étaient là aussi. La vieille sibérienne, toujours énergique quand il ne s'agissait que d'elle, avait le visage horriblement pâle. Elle s'attendait à quelque terrible scène. Ce n'était pas sans raison que son fils avait été conduit devant l'émir. Aussi tremblait-elle pour lui. Ivan Ogareff, frappé publiquement de ce Knout levé sur elle, n'était pas homme à pardonner et sa vengeance serait sans merci. Quelque épouvantable supplice familier aux barbares de l'Asie centrale menaçait certainement Michel Strogoff. Si Ivan Ogareff l'avait épargné au moment où ses soldats s'étaient jetés sur lui, c'est parce qu'il savait bien ce qu'il faisait en le réservant à la justice de l'émir. D'ailleurs, ni la mère ni le fils n'avaient pu se parler depuis la funeste scène du camp de Zabediro. On les avait impitoyablement séparés l'un de l'autre. Dure aggravation de leur misère, car c'eût été un adoucissement pour eux que d'être réunis pendant ces quelques jours de captivité. Marfa Strogoff aurait voulu demander pardon à son fils de tout le mal qu'elle lui avait involontairement causé, car elle s'accusait de n'avoir pu maîtriser ses sentiments maternels. Si elle avait su se contenir à Omsk, dans cette maison de poste, lorsqu'elle se trouva face à face avec lui, Michel Strogoff passait sans avoir été reconnu, et que de malheurs eussent été évités. Et de son côté, Michel Strogoff pensait que si sa mère était là, si Ivan Ogareff l'avait mise en sa présence, c'était pour qu'elle souffrît de son propre supplice. Peut-être aussi parce que quelque épouvantable mort lui était réservée à elle comme à lui. Quant à Nadia, elle se demandait ce qu'elle pourrait faire pour les sauver l'un et l'autre, comment venir en aide au fils et à la mère. Elle ne savait qu'imaginer, mais elle sentait vaguement qu'elle devait avant tout éviter d'attirer l'attention sur elle, qu'il fallait se dissimuler, se faire petite. Peut-être alors pourrait-elle ronger les mailles qui emprisonnaient le lion. En tout cas, si quelque occasion d'agir lui était donnée, elle agirait. Dût-elle se sacrifier pour le fils de Marfa Strogoff. Cependant, la plupart des prisonniers venaient de passer devant l'émir, et en passant, chacun d'eux avait dû se prosterner, le front dans la poussière en signe de servilité. C'était l'esclavage qui commençait par l'humiliation. Lorsque ces infortunés étaient trop lents à se courber, la rude main des gardes les jetait violemment à terre. Alcide Jolivet et son compagnon ne pouvaient assister à un pareil spectacle sans éprouver une véritable indignation. « Ces lâches, partons !» dit Alcide Jolivet. « Non, répondit Harry Blount, il faut tout voir. »« Tout voir ? Ah ! » s'écria soudain Alcide Jolivet en saisissant le bras de son compagnon. « Qu'avez-vous ? » lui demanda celui-ci. « Regardez, Blount, c'est elle !»« Elle ? » ?»« La sœur de notre compagnon de voyage, seule et prisonnière. Il faut la sauver !»« Contenez-vous !» répondit froidement Harry Blount. « Notre intervention en faveur de cette jeune fille pourrait lui être plus nuisible qu'utile. » Alcide Jolivet, prêt à s'élancer, s'arrêta, et Nadia, qui ne les avait pas aperçus, étant à demi voilée par ses cheveux, passa à son tour devant l'émir sans attirer son attention. Cependant, après Nadia, Marfa Strogoff était arrivée, et comme elle ne se jeta pas assez promptement dans la poussière, les gardes la poussèrent brutalement. Marfa Strogoff tomba. Son fils eut un mouvement terrible que les soldats qui la gardaient purent à peine maîtriser. Mais la vieille Marfa se releva, et on allait l'entraîner lorsqu'Ivan Ogareff intervint, disant « Que cette femme reste !» Quant à Nadia, elle fut rejetée dans la foule des prisonniers. Le regard d'Ivan Ogareff ne s'était pas arrêté sur elle. Michel Strogoff fut alors amené devant l'émir, et là, il resta debout, sans baisser les yeux. « Le front à terre !» lui cria Ivan Ogareff. « Non !» répondit Michel Strogoff. Deux gardes voulurent le contraindre à se courber, mais ce furent eux qui furent couchés sur le sol par la main du robuste jeune homme. Ivan Ogareff s'avança vers Michel Strogoff.
« Tu vas mourir !» dit-il.
« Je mourrai !» répondit fièrement Michel Strogoff. « Mais ta face de traître, Ivan, n'en portera pas moins et à jamais la marque infamante du Knut. » Ivan Ogareff, à cette réponse, pâlit affreusement. « Quel est ce prisonnier ?» demanda l'émir de cette voix qui était d'autant plus menaçante qu'elle était calme.
« Un espion russe !»
répondit Ivan Ogareff. En faisant de Michel Strogoff un espion, il savait que la sentence prononcée contre lui serait terrible. Michel Strogoff avait marché sur Ivan Ogareff. Les soldats l'arrêtèrent. L'émir fit alors un geste devant lequel se courba toute la foule. Puis il désigna de la main le Coran qui lui fut apporté. Il ouvrit le livre sacré et posa son doigt sur une des pages. C'était le hasard, ou plutôt dans la pensée de ces orientaux, Dieu même qui allait décider du sort de Michel Strogoff. Les peuples de l'Asie centrale donnent le nom de phale à cette pratique. Après avoir interprété le sens du verset touché par le doigt du juge, ils appliquent la sentence, quelle qu'elle soit. L'émir avait laissé son doigt appuyé sur la page du Coran. Le chef des oulémas, s'approchant alors, lut à haute voix un verset qui se terminait par ces mots. « Et il ne verra plus les choses de la terre. » « Espion russe, dit Féofar Khan, tu es venu pour voir ce qui se passe au camp tartare. Regarde donc de tous tes yeux. Regarde !»